Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission Info Club Sandwich. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le projet musical Neshama auprès du musicien et compositeur Valérie Poulet. Bonjour.
Bonjour.
Neshama, c'est donc un projet qui mêle deux univers différents. Le tien, Valérie, qui est donc compositeur expérimental et électroacoustique originaire d'Amiens, et celui de la chanteuse japonaise Fujiyuki, habituée donc de la scène expérimentale improvisée. Le tout, ça donne une musique très atmosphérique qui prend le temps de se développer. Neshama, ça veut dire le souffle ou l'âme en hébreu. Est-ce que tu peux déjà nous raconter pourquoi avoir choisi ce nom-là et surtout pourquoi avoir choisi l'hébreu pour nommer votre musique ?
Alors, pour expliquer ça, c'est assez marrant d'être tombé parce que, en fait, la chanteuse Fujiyuki travaille, enfin, elle a une culture, en fait, forcément shintoïste et bouddhiste. Et, en fait, bon, là, il y a une grande importance sur le souffle dans cette culture, au niveau du yoga, du zen, etc. Et en même temps, on s'est dit que c'était assez marrant parce que c'est, en fait, le Moyen-Orient était une espèce de point de rencontre entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on était presque équidistants. À peu de choses près, entre la France et le Japon. Bon, ça aurait été plutôt vers l'Iran, l'Irak, mais c'était dans cette région-là, en fait. Et donc, Neshama, ça a été aussi, quelque part, le fait de pouvoir trouver un point commun, où, en fait, tout le Moyen-Orient a aussi été le pont entre les rapports, les relations entre l'Occident et l'Asie, en fait. C'est par ces endroits-là que la route de la soie, etc., a passé et que les échanges se sont faits entre la Chine, le Japon et aussi et l'Europe à l'époque, pendant des siècles et des siècles, avant qu'on passe après par le cap de Bonne-Espérance, etc. Donc c'était un peu, en fait, symboliquement, ça représentait ça. Et puis le fait de Neshama, c'est de l'ancien hébreu. Quelque part, il y a eu des influences, en fait, je dirais, religieuses, quoi qu'il en soit, même si la religion judaïque est monothéiste, mais a pris aussi des apports de l'Asie, et qu'on a pris aussi indirectement après avec le christianisme, etc. Enfin, en gros, c'était aussi un peu cette double jonction, en fait.
Et puis le souffle aussi, peut-être la signification aussi par rapport au chant de Fujiyuki.
Oui, c'est ça. Il y a aussi, elle travaille beaucoup sur le souffle, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait beaucoup de grandes tenues, etc. Il y a aussi l'importance, bah, forcément, dans sa formation musicale et sa formation aussi culturelle, enfin, dans ce qu'elle vit, pas au quotidien, parce que le Japon, c'est un pays ultra moderne, mais en même temps qui a préservé beaucoup d'aspects très, très, très ancestraux dans la façon de voir certaines choses. Et donc, en fait, ça trouvait que ça collait. Alors maintenant, c'est Neshama, c'est en hébreu, ça aurait pu être un autre terme, ça aurait pu être en arabe, ou c'est pas spécifique à... comment dire, à la religion hébraïque, c'est simplement un terme, et pour le plus, au niveau de la sonorité, on trouvait que ça sonnait bien.
Et toi, donc, tu es amiénois, Fujiyuki est d'origine japonaise, comment est-ce que ça s'est passé la rencontre entre vous deux ?
Ah, alors ça, c'est assez marrant, en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, il y a un label qui m'a proposé de participer à une... un petit label slovène qui m'a proposé de participer à une compilation. Et il m'a demandé des morceaux. Et j'ai dit, ouais, ok, pourquoi pas, enfin, ça m'intéressait. Et donc c'est Rator Dog Records, en fait. Et d'un seul coup, au bout d'une semaine, il me dit, mais ça vous dirait pas de bosser, ça dirait pas de bosser avec une personne. Et là, on a donc Fujiyuki, et du coup, ben, on s'est mis, elle m'a envoyé des bandes, et puis on a commencé à bosser comme ça, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment par une personne qui, en plus c'est très marrant, qui est en Slovénie, qui nous a mis en contact. Et en fait, du coup, on ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais vus, on n'a eu que des échanges via Internet ou Skype, mais... on n'a jamais vraiment en réel bossé ensemble.
Ah, c'est incroyable. Et comment est-ce que ça se passe du coup pour la composition ? Est-ce qu'elle pose sa voix du coup sur les nappes sonores que tu crées, ou comment est-ce que vous organisez ?
Là, on a fait le contraire, en fait. Elle m'a envoyé ses voix, et à partir, j'ai construit les nappes sonores à partir de ses voix. Donc, alors forcément, elle m'a envoyé des parties assez longues, hein, qui permettaient aussi de pouvoir couper dedans, de pouvoir garder certaines parties, d'en sélectionner, ou de les redoubler, un truc comme ça. Et après, je lui renvoyais, en fait, ça marchait par fichier, en fait. Donc, je renvoyais les fichiers, elle me disait si elle était OK, s'il n'y avait pas des éléments qu'on pouvait rajouter, etc. Et en fait, l'échange s'est fait principalement comme ça, en fait.
Et donc, vous échangez en quelle langue ?
En anglais.
En anglais, okay.
Et on parle très mal anglais, enfin, on n'est pas très bon en anglais tous les deux, donc c'était, par moments, c'était assez folklore. On va dire que DeepL, Google Cognitive Traduction, etc., ça a bien fonctionné aussi pour certaines choses, sur des petites nuances, explications de choses, c'était pas... Donc des fois, on se refaisait des mails en disant « Ah ouais, non mais là, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire exactement ». Donc, on rechoppait le dictionnaire des synonymes pour essayer de retrouver le terme exact.
Donc le résultat, c'est trois morceaux, Neshama 1, ouais. 2 et 3, que vous venez de sortir là sur Internet en numérique, pour l'instant exclusivement sur Bandcamp, sur Deezer notamment. Comment est-ce que ça va se passer par la suite ? Est-ce que vous avez l'idée de vous rencontrer justement ? Est-ce que vous comptez faire du live peut-être pour présenter ces morceaux ?
Idéalement, ouais, je voulais préciser, donc en fait, Neshama 1, Neshama 2, Neshama 3, et en fait, est sorti sur un autre label, en fait, qui s'appelle Snow in Water, hein, qui est un label français, qui est un petit label de musique expérimentale français. Concernant les histoires de concerts, là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça se passe. Idéalement, on aimerait bien, mais c'est une autre étape. Enfin, on espérait pouvoir faire d'autres concerts. Enfin, Fujiyuki est déjà venu en France, je crois, une fois, deux fois, pour faire d'autres. Elle a joué aux Instants Chavirés, elle a joué en Belgique aussi, à Berlin, à Londres. Elle a fait deux tournées, en fait, européennes. Soit elle toute seule en solo, ou soit avec son groupe qui s'appelle Sari, qui est un groupe de drones. Expérimental japonais, et donc du coup on aimerait bien, on espère si la situation se débloque, mais ça voudrait dire qu'en fait en même temps on n'a jamais bossé réellement ensemble, ça veut dire que ça serait de pouvoir bloquer 15 jours au moins, ou une semaine 15 jours pour pouvoir se mettre dans des habitudes, des résidences, afin de pouvoir remettre les choses en point, parce qu'en live, c'est pas du tout la même... Autant c'est facile de poser des choses, en fait, comme ça, en numérique ou sur bande, mais les remaîtriser et échanger, et pas faire une stricte diffusion de ce qu'on a fait avec la voix qui est posée dessus, et même les automatismes où elle peut changer sa voix, ou trouver les points de repère, s'il n'y a pas un minimum de répétition... Donc voilà, donc idéalement, ça serait de pouvoir commencer par des résidences, ou au moins une résidence pour qu'elle ait ça, et puis après, éventuellement, trouver des concerts.
Donc toi, tu es compositeur expérimental et électroacoustique, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a mené vers cet univers-là, vers cette musique-là, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ?
Alors, c'est assez compliqué. En fait, j'ai commencé la musique il y a très très longtemps avec le punk. C'est-à-dire qu'en fait, du gros punk avec trois accords, etc. Et à partir du punk, j'ai commencé à m'intéresser à tout le mouvement qu'on appelait la musique industrielle, avec Strumming Gristle, Erschusen de Neubatten, SPK, Test Department, qui ont changé le son un peu, qui gardaient l'énergie du punk, mais qui sont sortis un peu du côté rock'n'roll, etc., pour passer sur d'autres... sur avoir des recherches, à rechercher un peu plus des trucs sur le son, etc. Et j'avais commencé à l'époque, alors ça remonte dans les années 83, 84, enfin il y a très très longtemps, et j'avais commencé à faire un peu d'électroacoustique. Alors, dans l'idée de ne pas faire de l'électroacoustique, mais de me servir de l'électroacoustique pour faire de l'indus. Et du coup, ça n'a pas duré très longtemps pour des aléas. Et puis, après, j'ai déménagé. Je suis resté 15 ans à Paris et puis après dans d'autres villes. Et du coup, j'ai dû arrêter la musique pour des tonnes de raisons. Et j'ai repris. Je suis revenu à Amiens il y a 5-6 ans. Et là, je me suis dit, bon, bah là, c'est vrai, je me suis réinscrit en électroacoustique. Et puis, j'ai repris une basse, une guitare. Et puis, j'ai commencé à refaire des choses, en fait. Et donc, du coup, bah, j'ai repassé tout le cursus en électroacoustique au Conservatoire d'Amiens. Et du coup, maintenant, je suis diplômé. Enfin, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai le diplôme, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé le diplôme jusqu'au troisième cycle d'électroacoustique. Et puis, à partir de là, bon, ben, voilà. Quoi. Mais je me suis beaucoup plus intéressé, cette fois-ci, à l'électroacoustique pure que je n'avais pu le faire à l'époque. Mais en gardant toujours cette idée d'en faire un truc un peu dérivé, de ne pas être dans l'espèce d'école figée de l'électroacoustique.
Donc ça donne Neshama en ce moment.
Ça donne Neshama en ce moment. Voilà, ça pourrait être d'autres choses, d'autres déclinaisons, mais enfin en tout cas c'est l'un des aboutissements ou l'une des voies qui se dirige en ce moment.
Donc tu travailles beaucoup seul en fait quand tu composes, quand tu fais de la musique.
Ouais, je travaille seul quasiment en fait. Donc, je suis tout seul.
T'as besoin de te mettre dans une bulle peut-être.
Non, pas spécialement, parce que de temps en temps, avec des copains, on joue, on s'amuse à faire des reprises de vieux trucs qu'on a écoutés à l'époque, mais vraiment pour le fun. Après, qui n'ont pas de prétention à faire des concerts ou quoi que ce soit, c'est plus pour s'amuser. Et j'aime bien aussi ce côté collectif, l'espèce d'énergie collective qui s'en dégage, qui en ressort. Alors après, par contre, sur ce type de musique, ouais, effectivement, je bosse beaucoup plus en solitaire, parce que c'est plus compliqué, c'est des manipulations qui sont plus longues, qui sont pas forcément, ou c'est des tâtonnements, c'est-à-dire que c'est pas forcément prendre un truc, faire un accord, et puis, ça y est, ça roule, on s'y retrouve, c'est pas forcément simple. Mais ça veut dire que je suis pas forcément quelqu'un qui va bosser toujours tout seul, etc. En l'occurrence, pour ce type de projet, oui.
Donc tu as sorti récemment les trois morceaux du projet Neshama, Neshama 1, 2 et 3 avec la chanteuse Fujiyuki. Est-ce que tu peux peut-être revenir en détail sur comment est-ce que toi tu as travaillé, est-ce que tu disais qu'il y avait un échange avec elle où elle posait sa voix et tu travaillais par-dessus, mais quels instruments tu as utilisé par exemple, quelle méthode sur ces différents morceaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage de chaque morceau que tu voulais rendre aussi au niveau du rendu, est-ce que tu avais envie qu'il y ait des atmosphères différentes dans chacune? Quelles envies tu avais pour ces trois morceaux-là?
C'était d'abord me coller à la voix. C'était d'écouter la voix, de savoir comment elle modulait, comment elle s'exprimait, parce que c'est pas un chant c'est des chants qui peuvent être parfois accidentés, qui ne sont pas forcément toujours mélodiques. Et c'était d'écouter un peu, en fait, ce qu'il y avait en sonore, les harmonies qui pouvaient dégager de la voix, s'il y avait des aigus, s'il y avait des graves, des changements d'amplitude, et de travailler à partir de ça. Et puis aussi, comme c'est en fait des chants qui sont très très proches, en fait, je dirais pas de la transe, mais de quelque chose de litanie, de répétitif, d'essayer de coller aussi sur son univers, en fait, de pouvoir appréhender cette culture aussi différente, entre guillemets, qui n'est pas exactement la même que la mienne, où j'ai eu des choses surprenantes, disant « Oups, je fais quoi avec ça là, comment je m'en dépatouille, ce qui est hyper intéressant », et d'essayer de coller aux textures sonores qu'elle proposait, et de coller, et du coup... soit d'être proche de cette texture sonore, ou soit de m'éloigner un peu. Et par contre, ce qui me paraissait évident et assez compliqué, par exemple, c'est de mettre des rythmiques, ça me paraissait pas évident du tout dans ce cas de figure d'en mettre, ou soit des ponctuations rythmiques, il y en a très peu. Et puis au niveau instrument, le seul instrument que j'ai utilisé, c'est sur Neshama 3, j'ai utilisé un peu de basse, mais que j'ai complètement traficoté.
Tu as travaillé le son ensuite, en fait, tu as enregistré ta basse et ensuite tu l'as modifié en post-prod.
Ouais. Donc en fait, j'ai passé la voix, j'avais fait déjà une part de couche sonore et j'ai retravaillé là-dessus. Puis après, j'ai retravaillé le son de la basse en post-prod, ce qui fait que c'est plus du tout une basse au départ. C'est parce que j'étais plus à l'aise que de le faire sur un clavier où je suis pas clavieriste, je suis pas pianiste au départ. Donc des fois, quand il commence à y avoir des trucs compliqués, je vais sur l'instrument qui va
être plus à l'aise, oui. Et sinon, ouais. Le reste, c'était de la musique assistée par ordinateur, c'est ça, pour les nappes sonores?
C'est surtout de la musique assistée par ordinateur et aussi pas mal d'enregistrements. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu de matériel pour enregistrer. Donc en fait, je dis, ah tiens, ça serait intéressant d'avoir des sons aigus là. Donc je vais aller à la pêche de sons aigus. C'est-à-dire que je vais soit faire chez moi ou soit à l'extérieur. Et puis de commencer à... Et puis de le triturer de façon à obtenir le son que... Enfin, idéalement que je voulais. Ça marche pas toujours à tous les coups. Des fois, bah, j'arrive pas à trouver. Mais bon, je me dis, celui-là, il est pas mal. Et puis je le garde quand même. Et puis finalement... Un truc que je pensais pas intéressant, finalement, bah, ça colle. Et donc, en fait, c'est un mélange des trois. C'est-à-dire que c'est soit bosser avec des émulations de synthé, soit bosser avec du synthé modulaire, et aussi des enregistrements, et aussi, bon, bah, plus rarement, en fait, de l'instrument traditionnel, entre guillemets.
Donc, ça donne trois morceaux, Neshama 1, 2 et 3. Vous avez sorti donc un clip pour le morceau Neshama 2, qui est sorti donc le 6 mars dernier. Vous nous plongez ici dans une ambiance très sombre, il y a assez inquiétante même au niveau de l'image, notamment bon, du son, il y a une ambiance très spirituelle aussi qui se dégage, mais il y a aussi quelque chose de très très sombre, je trouve, dans le clip. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez imaginé ce clip-là?
Bah, en fait, alors, ce clip-là, c'est parti de l'ambiance générale, en fait, du chant, de la musique. Et bah c'était j'habite pas trop loin d'Amiens et j'habite dans un coin où il y a beaucoup d'étangs, enfin je suis dans la vallée de la Selle en fait. Et du coup j'ai un copain qui m'a prêté en fait une petite caméra, puis j'ai commencé à me balader. Et puis alors au départ je cherchais quand même s'il y a un rapport avec la nature, qui paraît très important, parce qu'en fait toute l'influence par exemple de Fujiyuki, c'est aussi, elle est avec le bouddhisme, enfin ce que j'en connais, et surtout le bouddhisme,
le shintoïsme
japonais,
aussi.
Le shintoïsme, il y a un rapport très proche à la nature, c'est-à-dire que le shintoïsme, c'est de l'animisme, quasiment comme en Afrique, il y a des rapports très relationnels avec les pierres, avec les arbres, avec les tonnes. Et donc du coup, c'était retrouver ça et de le prendre un peu comme des incantations, en fait, c'est-à-dire qu'à l'incanter la nature et d'avoir du coup cette nature qui se mettait en vibration avec le chant.
Il y a un côté très chamanique en fait, presque même aussi dans ce morceau là.
Ouais, c'était en fait, ouais, c'est ça. C'est par exemple, il y a de la fumée qui sort. En fait, c'est une espèce d'appel à des esprits de façon imaginaire, mais c'était trouver cette espèce d'ambiance d'incantation, d'aller chercher des esprits.
Et donc c'est Fujiyuki qu'on voit sur les images.
Oui, c'est Fujiyuki qu'on voit sur les images. Alors elle a tourné ces images en fait, sont chez elle, qu'elle m'a renvoyé et que j'ai réintégré à la vidéo.
À l'image de votre musique en fait.
Donc en fait tout s'est fait vraiment comme ça.
Merci beaucoup, voilà. Valérie Poulet.
Merci.
Je rappelle donc que tu es l'un des membres du duo Neshama, un projet qui mêle donc deux univers différents, le tien, qui est donc compositeur expérimental et électroacoustique sur Amiens, et puis celui de la chanteuse japonaise Fujiyuki, qui est donc plutôt dans de la scène expérimentale improvisée au Japon. Le tout, ça donne une musique très atmosphérique, justement, où vous nous plongez un peu dans vos deux univers que vous avez superposés l'un l'autre par échange dématérialisé. Ça donne trois morceaux, donc Neshama 1, 2 et 3, qu'on peut découvrir sur Deezer, mais aussi sur Bandcamp. Et un clip aussi qu'on peut trouver sur YouTube autour du morceau Neshama 2, donc, que je mettrai en lien d'ailleurs sur le podcast de cette émission. Et je vous propose d'ailleurs de terminer cette émission sur ce titre, en votant donc Neshama 2, que vous avez donc composé avec Fujiyuki. Bonne écoute!